Bien, bonsoir à tous, Christ est ressuscité. Nous allons continuer donc avec, continuer et terminer autant qu'il est possible notre parcours dans la première épître de Saint Jean avec le cinquième chapitre. Mais auparavant, je voudrais un petit peu récapituler tout ce que nous avons pu dire d'essentiel sur cette épître. Donc, je rappelle, à partir du premier chapitre, nous avions vu les conditions dans lesquelles devaient évoluer tous ceux qui sont des fidèles du Christ. D'abord, la première condition, c'était de rompre avec le péché. Le Christ nous invite à rompre avec le péché. Et Saint Jean nous dit, donc au premier chapitre, verset 8 et suivant, « Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » Et bien sûr, Saint Jean fait preuve de toute sa sollicitude vis-à-vis de ceux qui s'adressent, dont les communautés chrétiennes, des églises de l'Asie mineure romaine, en utilisant à plusieurs reprises, nous l'avions déjà vu, hein, j'insiste pas là-dessus, en utilisant l'expression « petits-enfants ». Petits-enfants, ce qui marque d'ailleurs l'autorité avec laquelle il s'adresse à tous ceux qui sont destinataires de cette épître. La deuxième condition, c'est d'observer les cinq commandements du Christ, et le premier d'entre eux, l'amour. Alors, nous en avons l'attestation dans le deuxième chapitre, à partir du verset 4, des versets 4 et 5, mais c'est un thème qui revient tout au long de l'épître. Je cite, « Qui dit « je le connais » alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. » Et plus loin, au verset 9, il dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. » Et au verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. » La troisième condition, c'est de se garder de ce monde. Hein, en ne perdant pas de vue que dans Saint Jean, on parle du monde et de ce monde. Évidemment, le monde en tant que créature de Dieu est bon, puisque toute création de Dieu est bonne, mais à cause du péché, le monde s'est coupé de sa source, et ce monde est le signe de cette séparation avec Dieu. Et n'oubliez pas que dans Saint Jean, il y a toujours ces unités paradoxales entre lumière et ténèbres, ces oppositions entre lumière et ténèbres, vie et mort, etc. J'en ai déjà parlé. Donc, la troisième condition, c'est de se garder de ce monde. Là encore, il dit « Je vous écris, petits enfants ». Alors, au verset 15, à partir du chapitre 2, verset 15 et suivant, « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La quatrième condition, et il ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel cette épître a été adressée aux églises de l'Asie romaine, c'est se garder des antichrists. Et là encore, au chapitre 2, petits enfants, toujours, et quand il parle des antichrists, voici ce qu'il dit, « Voici venue la dernière heure, vous avez ouï dire que l'antichrist doit venir, et déjà maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là ? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. » Alors les antichrists de ce temps, c'est toutes les hérésies, les apostasies liées à des doctrines qui sont contraires à l'enseignement des apôtres, et en particulier les doctrines gnostiques qui prétendaient qu'il y avait une connaissance qui était supérieure à la foi, une connaissance qui reposait d'ailleurs uniquement sur des spéculations intellectuelles et non pas sur la pratique vivante et vivifiante de la communion avec Dieu. Et évidemment, nous le savons tous, cette exhortation à se garder des antichrists était valable non seulement pour ceux à qui l'épître était adressée, mais concerne toutes les générations de fidèles chrétiens. Dans la deuxième partie, donc à partir des chapitres 3 et 4, où il est plus spécifiquement envisagé de vivre en enfant de Dieu, bon, on reprend des thématiques propres à ces quatre conditions, la rupture avec le péché, la garde des commandements et la garde du commandement d'amour en premier lieu et la garde contre les antichrists. Il est bon de citer en particulier ce qui est dit au chapitre 3 et verset 14. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et plus loin, en ce qui concerne les antichrists, à ceux-ci reconnaissez l'Esprit de Dieu, au chapitre 4, à partir du verset 2, à ceux-ci reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Antichrist, c'est Antichristos, comme je l'ai dit, celui qui se met à la place du Christ, qui est un faux Christ, qui est un faux docteur, qui cherche à séduire et à égarer les fidèles. Et puis, plus loin dans le chapitre 4, Saint Jean revient sur la source de l'amour et de la foi, bien-aimé, donc à partir du verset 7, bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est vraiment ce qui est dit de l'essentiel de Dieu. Dieu est amour, donc don total. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Puis nous arrivons donc au chapitre 5, qui fait spécifiquement l'objet de notre cours de ce jour. Donc je vais partir du premier verset du chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui engendre aime aussi celui qui est engendré. Donc cette affirmation du premier verset du chapitre 5, en vérité, elle ne fait que répéter ce que nous avons déjà vu au chapitre 2 et au chapitre 4. Il y a un certain nombre de redondances dans l'ensemble de l'épître, mais avec des insistances ou des éclairages qui peuvent être différents. Ce n'est pas de pure et simple répétition. Alors, ce verset 1 du chapitre 5, il fait très clairement écho aussi au verset 12 du prologue de Saint Jean, prologue de l'évangile de Saint Jean. Je rappelle ce verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, de quoi s'agit-il là? De l'accueil, d'un accueil qui correspond à l'ouverture du cœur de l'homme par le Saint-Esprit, car nous le savons, c'est dit dans l'Évangile, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si le Saint-Esprit n'a pas ouvert son cœur, si le Saint-Esprit ne lui a pas soufflé. Celui qui engendre, dont il est fait mention dans ce verset, celui qui engendre, c'est le Père. Mais nous savons également, cet engendrement est avant tous les siècles. C'est l'engendrement éternel de celui qui est le Verbe auprès de Dieu, tourné vers Dieu, proston theon, Dieu le Verbe. Et celui qui professe Jésus-Christ, venu en chair, donc dans la foi, est engendré à son tour comme fils. Et cet engendrement est nouveau, c'est pas l'engendrement biologique de la succession des générations tant que ce monde existe. Parce que cet engendrement-là, il ne résulte pas, comme le dit le prologue, d'un vouloir de chair ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance qui supprime le pouvoir du péché. Il devient donc enfant de Dieu parce que né de Dieu, comme c'est dit donc dans la première épître, au chapitre 3 et au verset 9. Le deuxième verset nous dit « En cela, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Alors, une autre traduction dit « Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Bon, c'est des variantes, mais ça veut dire exactement la même chose. En cela, nous connaissons. C'est la troisième fois que nous rencontrons cette expression qui figurait déjà dans le deuxième chapitre au verset 5, et qui parlait de la garde de la parole et des commandements. Également, donc, troisième chapitre, verset 19, avec le parallèle établi entre le sacrifice d'amour du Christ et le don que nous devons faire de nous-mêmes à nos frères. Preuve, nous dit saint Jean, alors que nous n'aimons pas en parole ni de langue, mais en acte et en vérité. Je cite, je reprends ce verset 19. 3:19. À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité, et devant lui, nous apaiserons notre cœur, si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Plus loin, « Or, voici son commandement, croire au nom du Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous en a donné le commandement. » En cela, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. C'est très important, ça. Et le verset 24 du troisième chapitre rappelle que celui qui garde ses commandements demeure en lui. Alors, je cite à nouveau. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné. Bon, j'ai utilisé une traduction qui varie quelque peu, mais ça n'a pas d'importance, c'est exactement la même signification. Alors, ce verset, pour la troisième fois, est répété mot pour mot en 4:13. Je m'y reporte à nouveau. 4:13, à ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et saint Jean, témoin oculaire, justement, ajoute, c'est la qualité apostolique d'être témoin oculaire, et saint Jean ajoute en 4:14, et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui professe que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Ainsi, voyez-vous, le lien est donc très clairement établi entre, d'une part, l'amour de Dieu, l'amour des frères, la pratique et la garde des saints commandements du Christ. Ce sont là, en vérité, trois aspects d'une même réalité, qui sont un, en fait. On ne saurait les séparer. Trois aspects qui caractérisent la vie dans l'Église, qui caractérisent la vie chrétienne, l'essence même de la vie chrétienne, et qui montrent que les relations entre les membres du corps du Christ sont fondées sur le don de l'amour à l'image de celle des trois personnes divines. Et non sur la loi du monde, qui est une loi de réciprocité, d'intérêt entre individus. Et donc, la loi du royaume, qui doit être déjà présente dans la vie de l'Église, eh bien, est très pour très à l'opposé de cette loi de réciprocité d'intérêt qui est caractéristique du monde déchu, du monde séparé de Dieu. Alors, le critère de l'amour est énoncé au deuxième chapitre, au verset 6. Dans la deuxième épître de Saint Jean, cette fois-ci, au verset 6, « Et tel est l'amour, que nous nous conduisions selon ses commandements. » Et le premier commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. C'est dans la deuxième épître de Saint Jean qui, elle, est adressée par l'ancien à la dame élue et à ses enfants, que j'aime en vérité, dit-il. Et ces commandements ne sont pas, puisqu'il y a la référence aux commandements, il est dit, et ces commandements ne sont pas pesants, ou plus exactement, lourds. Donc, de l'adjectif barous, lourd, et qui fait allusion à l'affirmation évangélique que l'on trouve en Matthieu 11, 30. « Mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Contrairement justement, parce que c'est donné dans une diatribe aux pharisiens, contrairement aux pharisiens qui lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais qui eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. C'est dans Matthieu 23, verset 4. Alors, la connaissance dont Saint Jean parle dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 2, je l'ai cité tout à l'heure, cette connaissance, bien sûr, n'a rien à voir avec une pseudo-connaissance qui relève, elle, d'une pratique spéculative. Elle est totalement contraire à l'usage que font de ce mot les sectes gnostiques, les faux docteurs, les antichrists, dont il est fait mention dans notre épître. Il s'agit là d'une connaissance spirituelle, donc d'une relation à Dieu qui nous engage totalement en esprit, âme et corps. C'est une connaissance dont nous faisons l'expérience, dans laquelle nous faisons l'expérience de l'union à Dieu. Par la prière, nous faisons l'expérience de la communion avec Dieu. C'est une connaissance donc qui nous fait entrer progressivement dans l'intimité avec Dieu. C'est une connaissance d'amour donc, dont le critère de vérité, nous dit Saint Jean, est la garde et la pratique des commandements. Garde et pratique sont indissolubles. Pardonnez-moi, sont totalement liés. La garde va des commandements va avec leur pratique. Donc vous voyez, c'est une connaissance qui n'a pas grand-chose à voir avec l'utilisation que faisaient de ce mot les sectes gnostiques qui représentaient une véritable menace pour l'Église. Sectes gnostiques qui sont déjà présentes, qui vont se développer ultérieurement, mais qui sont déjà présentes. Cette connaissance, elle est vie, parce que cette connaissance, donc, qui nous engage totalement dans l'union à Dieu, dans la communion avec lui, elle est liée à l'amour. Bien sûr. Cette connaissance est vie, nous dit Saint Jean, car celui qui n'aime pas est dans la mort. au chapitre 3, le verset 14, il est dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Alors, il y a un aspect sur lequel il faut insister, c'est que amour et vérité ne font qu'un. Et Saint Jean le dit très clairement. « En cela, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui professe Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est là l'esprit de l'Antichrist. C'est au chapitre 4. Donc il y a un lien indissoluble, indéfectible entre amour et vérité. Les versets 3 et 4 du 5e chapitre nous disent tel est en effet l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Que nous gardions et que nous pratiquions, sous-entendu, ses commandements. Et ces commandements ne sont pas lourds, ne sont pas pesants, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et telle est la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Alors, nous avions vu cette affirmation de la victoire sur le monde dans l'un des discours d'adieu au chapitre 16, verset 33 de l'évangile de Saint Jean, où le Seigneur nous dit dans le monde, je cite, dans le monde vous avez de l'affliction, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et cette parole est plusieurs fois répétée dans l'évangile, comme dans l'Apocalypse, par exemple au chapitre 3, verset 21, au chapitre 5, verset 5, au chapitre 17, verset 14. C'est dit également dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, si mes souvenirs sont exacts, mais il faudra vérifier, au chapitre 15, verset 57, et dans l'épître aux Romains, au 8e chapitre, le verset 37. Je cite, « Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, et à plusieurs reprises dans ce cours sur la première épître de Saint Jean, en ce qui concerne ce terme de « monde », j'ai rappelé tout à l'heure, et je le redis, qu'il ne s'agit pas de la création de Dieu qui est bonne. Pourquoi cette création de Dieu est bonne? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas ombre de ténèbres, dont tout ce qu'il fait est bon. Mais, et Saint Jean insiste là-dessus, il s'agit de ce monde, en tant qu'il est coupé de la source de vie. Et ce monde précisément, ce monde qui est coupé de Dieu, eh bien, le Christ l'a vaincu par sa mort vivifiante et par sa glorieuse résurrection. De sorte qu'on peut dire, avec je ne sais plus quel auteur, j'ai oublié son nom, mais l'expression m'a paru adéquate et forte, on peut dire que ce monde est un tombeau vide. Saint Jean nous dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et le verset 4 nous dit que tous ceux qui sont nés, non d'un vouloir d'homme, mais de Dieu, tous ceux qui sont libérés de l'emprise du péché et de l'amour, et de la mort, pardon, par le sacrifice d'amour du Christ, sont vainqueurs, ont remporté la victoire qui a vaincu le monde. Au moyen de quoi? Au moyen de la foi. Et qui est le vainqueur du monde? ajoute le verset 5, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui-là, nous dit saint Jean, est passé de la mort à la vie, car au fond, le monde séparé de Dieu n'est que puissance de mort. Les versets 6 à 7, donc toujours dans le cinquième chapitre, nous disent ceci. « C'est ce même Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à une seule chose. » Alors là, j'ai cité ces versets tels qu'ils figurent dans certains manuscrits grecs et dans certains manuscrits byzantins. Il y a une controverse sur les éditeurs du Nouveau, parmi les éditeurs du Nouveau Testament sur ce verset. Certains disent que ce sont des versets tardifs. J'ai regardé dans l'édition du Nouveau Testament en langue roumaine, édition de 2015 préfacée par le patriarche Daniel, et j'ai regardé effectivement ce verset est cité selon ce que je viens de citer, c'est-à-dire conformément à la tradition manuscrite byzantine. Mais sachez que dans nos Nouveaux Testaments en langue française, il ne figure pas comme tel, puisqu'il est dit « Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui est venu par eau et par sang, Jésus-Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang, et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. » Il y en a ainsi trois à témoigner, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois tendent au même but, ou à la même chose, se rapportent à une seule chose. Mais il n'est pas fait référence donc au témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Donc à la source de la foi, il y a Jésus-Christ, le vainqueur du monde. Et de ce fait, dès cette vie terrestre, est aussi vainqueur du monde celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme le dit le verset 5b. Il y a donc un double témoignage de cette vérité. Pour reprendre les versets cités selon la tradition manuscrite byzantine. D'abord dans le ciel, les trois personnes de la très sainte Trinité, qui ne sont qu'un. Ensuite sur cette terre, l'Esprit témoigne devant les hommes. L'Esprit témoigne devant les hommes. L'Esprit qui glorifie Jésus-Christ. Et nous en avons au moins deux attestations dans l'Évangile, cette fois-ci au chapitre 16 et au chapitre 15. Chapitre 16, les versets 13 et 14. « Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de ce qu'il entendra, il le dira et vous dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, c'est le Christ qui parle, lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. Donc ça veut dire que, en glorifiant le Christ, l'Esprit témoigne en sa faveur. Et au chapitre 15-26, lorsque viendra le Paraclet, nous connaissons tous ce verset, lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage. À nouveau, donc, il me rendra témoignage. Alors, l'Esprit, l'eau et le sang dont il est question ici se rapportent au témoignage en faveur de celui qui s'est abaissé jusqu'à nous. Donc, le Verbe éternel de Dieu, celui qui de toute éternité est dans le sein du Père, et qui, sans changement ni altération quant à la divinité, prend, assume totalement notre nature humaine pour la sauver. L'Esprit qui, au baptême du Jourdain, hein, reportez-vous à Matthieu 3, 16 et Jean 1, 33, témoigne semblablement à une colombe que Jésus est le Messie, le Fils bien-aimé, selon le témoignage de la parole du Père. C'est la théophanie de la Très Sainte Trinité au baptême du Christ dans le Jourdain par Jean-Baptiste. L'eau, donc c'est l'eau du baptême, le sang qui fait clairement référence au sacrifice vivifiant, au sacrifice d'amour, car le sacrifice du Christ est un sacrifice d'amour, au sang, mais également au sang répandu pour la vie du monde, au sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, mais en même temps au sang qui est le breuvage d'immortalité de la Sainte Eucharistie. Car comme il est dit dans le discours sur le pain de vie, en Jean 6, 56, « Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. » Alors, l'Esprit, qui est la vérité, l'Esprit qui est vérité, comme le disait le verset déjà cité, l'Esprit qui est vérité, qui témoigne en faveur du Christ, qui est lui-même chemin, vérité et vie. Et sur ce triple témoignage, dans le ciel d'abord, sur la terre ensuite, nous trouvons un écho. Le cinquième chapitre de l'évangile de Jean, un écho sur la question du témoignage. Parce que vous savez que c'est une question importante que nous trouvons déjà dans le livre du Deutéronome et également dans le livre des Nombres, donc Deutéronome 19-15 et Nombres 35-30. Deutéronome 19-15 qui rappelle que pour constater un crime ou un péché grave, de quelque nature qu'il soit, il faut que pour établir les faits, il y ait la déposition de deux ou trois témoins. Les versets donc 9, 10, 11 du cinquième chapitre nous disent ceci. « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Et le verset 12, donc celui qui suit immédiatement, ajoute « Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie. » Alors, sur le témoignage de Dieu que Dieu rend à son Fils, on se rapportera également à Romains 8, 16, à Galates 1, 4, 6, et sur la question du témoignage, on se reportera à Jean 5, 37, 40. Je vais le citer. Jean 5, 37, 40. Et le Père qui m'a envoyé, lui me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc en écho, toujours en écho, parce qu'il y a un lien indéfectible entre l'Évangile et les Épîtres, de Saint Jean, en écho au verset 9 à 11 déjà cité, et toujours en Jean 5 au verset 24, il est dit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » À quoi Jean 14, 6 ajoute « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, vous aurez remarqué avec moi que tous ces parallèles, tous ces va-et-vient entre des versets de l'Évangile et de la première épître, mettent en pleine lumière l'unité profonde de la doctrine de Saint Jean et ses particularités que l'on retrouve dans les deux textes, dans l'Évangile et dans les Épîtres. Venons-en maintenant à la deuxième et dernière partie du chapitre 5 que l'on peut diviser en deux sections. Cette dernière partie, elle est très courte, hein, puisque elle commence au verset 14 et elle se termine au verset 21. La première partie concerne la prière et en particulier la prière de demande conformément à la volonté de Dieu. La prière pour les pécheurs, et il est dit au verset 14, nous avons en Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. En vérité, c'est une répétition déjà d'un verset que nous avons rencontré au chapitre 3, verset 22, qui dit la même chose à peu près sous la même forme. Je cite, « Nous avons pleine assurance devant Dieu » quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, que veut dire Saint Jean quand il dit que Dieu nous écoute? Quand il dit « Nous avons en Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Saint Jean répond à cette question dans l'Évangile, au chapitre 9, verset 31, en disant ceci: « Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. » Alors, quand il dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs, bien sûr, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais du moins ceux qui n'ont pas le repentir. Bien sûr. Car comme le dit saint Isaac le Syrien, tout péché peut être pardonné, sauf celui dont on ne se repent pas. Le péché pour lequel on ne se repent pas, il n'est pas pardonné. Alors à quoi peut bien servir cette demande si l'on suit ce qui est dit au verset 15 ? Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Je peux dire que ce verset renforce le parallèle avec le chapitre 9, verset 31 de l'Évangile de saint Jean. Pourquoi cette prière de demande ? Il faut se poser la question, pourquoi cette prière de demande ? Pourquoi saint Jean nous invite à demander avec assurance ? Saint Jean Cassien, à la suite de son maître saint Jean Chrysostome, je vous rappelle que saint Jean Chrysostome a ordonné diacre saint Jean Cassien à Constantinople, et que saint Jean Cassien l'a toujours reconnu pour maître. Saint Jean Cassien nous dit qu'il y a quatre formes de prière: l'adoration, la louange, l'action de grâce et la demande. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quelle demande, bien sûr, ce sont des demandes en vue de notre salut, des demandes qui sont utiles et nécessaires à notre salut, des demandes en faveur de nos frères, en faveur de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont affligés par la maladie, de tous ceux qui sont dans la peine, pour tous nos frères qui sont persécutés. C'est de telles demandes dont il s'agit. Mais plus profondément, à quoi sert cette prière de demande ? Eh bien, demander, je rappelle, c'est espérer recevoir ce que nous ne possédons pas. Parce que ce que nous possédons, nous n'avons pas besoin de le demander. Et spirituellement, c'est la marque d'un état de manque. Nous manquons, à cause de nos péchés, nous manquons de l'essentiel même. Et demander dans la prière, c'est souligner que un lien de dépendance avec Dieu, notre dépendance avec Dieu. Car celui qui ne prie pas, eh bien, dans les faits, dans la pratique, il se pose comme un être suffisant par soi. Au contraire, celui qui prie et qui demande au Seigneur, eh bien, il se met dans un lien de dépendance avec Dieu et avec sa volonté. Il espère tout de lui. Et il sait lorsque sa prière est exaucée, non pas forcément comme il le voudrait, parce que les voies de Dieu sont impénétrables, mais Dieu exauce toujours celui qui demande d'un cœur sincère et repentant. Il sait, celui-là, que ce qu'il reçoit est grâce, don et manifestation de la providence divine. Ainsi, en formulant des prières pour son salut et pour le salut de tous les frères, eh bien, il marque, il exprime sa confiance dans la foi, dans le Seigneur. Les versets 16 et 17 disent ceci: « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort, car il y a un péché qui conduit à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché, mais il y a un péché qui ne va pas à la mort. » Alors, ce verset peut être l'occasion de nous surprendre. De quoi s'agit-il? Saint Jean nous dit qu'il s'agit là d'un péché qui, contrairement à l'absence d'amour, ne mène pas à la mort spirituelle. Ça signifie qu'à contrario, il y a un péché qui nous conduit à la mort spirituelle. Et quel est-il? Parce que là, le texte est très ramassé, va à l'essentiel. Donc, nous pouvons nous interroger. Quel est-il, ce péché? Le texte ne le dit pas, il reste silencieux. Mais si on se rapporte au contexte, c'est-à-dire cette épître, cette adresse que Saint Jean, avec toute son autorité, sa paternité spirituelle, adresse aux églises de l'Asie romaine, on peut penser que dans ce contexte, ceux qui entendent ces paroles, ou du moins ceux à qui ces paroles sont destinées, savent de quoi il s'agit. En tout cas, c'est une hypothèse qui a le mérite de la vraisemblance. S'agit-il, ce péché qui conduit à la mort, s'agit-il, en filigrane, du péché contre l'esprit, dont parle saint Matthieu au 12e chapitre et au verset 32. Je cite « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » C'est donc un péché irrémissible. Et saint Marc, au chapitre 3, verset 29 de son évangile, dit « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Au chapitre 4, donc de la première épître, au verset 3 déjà cité, il est aussi fait clairement allusion à l'hérésie et à l'apostasie de ceux qui écoutent la voix des antichrists. Donc de ceux qui nient que le Verbe soit venu dans la chair. Tout esprit qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu, il est de l'Antichrist. Et pour revenir sur les doctrines gnostiques dont nous avons abondamment parlé, eh bien, elles sont très clairement visées, parce qu'elles représentent un grand danger au moment où saint Jean envoie son épître. Et quel est ce danger? Eh bien, en cas d'adhésion à ces fausses doctrines, qui sont l'œuvre des antichrists, eh bien, c'est celui d'apostasier, en fait, la foi, donc de quitter la communion avec Dieu, Et ces doctrines, je le rappelle, sapent radicalement les fondements de la foi et transforment le christianisme en une philosophie, en une spéculation philosophique délirante. À ce propos, d'ailleurs, en écho à ce que nous dit saint Jean, voyons ce que dit l'Épître aux Hébreux, au 10e chapitre, les versets 26 à 31. Je cite « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il y a au contraire une perspective redoutable, celle du jugement et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Quelqu'un rejette-t-il la loi de Moïse ? Impitoyablement, il est mis à mort sur la disposition de deux ou trois témoins. D'un châtiment combien plus grave sera jugé digne, ne pensez-vous pas celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance dans lequel il a été sanctifié, et outragé l'Esprit de la grâce ? Nous connaissons en effet celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. Ô chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant. » Et dans cet ordre d'idées, reportez-vous également à la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 20 à 22. Donc, voilà pour cette première partie de la conclusion de l'Épître. Et pour finir, les versets 18 à 21 nous rappellent les principaux critères qui sont développés dans notre épître. Le verset 18 que je retrouve, chapitre 5, verset 18, emploie donc l'expression nous savons. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Le verset 19 commence également par « nous savons » et le verset 20 commence également par « nous savons ». Donc cette expression est employée par trois fois et se veut récapitulation. Récapitulation de quoi ? Eh bien, des espérances que porte la foi chrétienne. Des espérances et en même temps des certitudes que porte la foi chrétienne. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais l'engendré, Dieu le garde et le mauvais n'a pas prise sur lui. Au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Et au verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Alors, le verset 19 nous dit que le monde est aux mains du mauvais, c'est ce monde qui est séparé de Dieu. Ce monde qui est issu du péché de l'homme, ce monde qui se croit autosuffisant, ce monde qui se prive de la source divine, et donc qui est un monde de mort, par conséquent, alors que les chrétiens, eux, ceux qui sont dans le Fils, sont au Père et appartiennent à l'autre monde qui est déjà à l'œuvre au sein même de ce monde. Et nous savons également que le Fils de Dieu, le Verbe éternel, qui s'est fait homme, qui s'est incarné, nous donne à connaître le véritable, le seul vrai Dieu. Comme le dit le verset 18 de l'Évangile de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, l'unique engendré qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître, c'est-à-dire nous l'a révélé. On se reportera également dans cet ordre d'idées à la première épître aux Thessaloniciens 1, 9 et à l'évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 3. Et on remarque que cette épître se termine de façon assez abrupte, verset 21, qui est assez lapidaire. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Alors, ces idoles, évidemment, elles désignent plusieurs réalités. Elles désignent les doctrines païennes, elles désignent les doctrines gnostiques, mais elles désignent aussi ce qui est à l'intérieur de l'homme, les passions qui sont dans le cœur de l'homme sont comme des idoles auxquelles nous rendons un culte si nous ne les combattons pas. Et ce verset 21, il est un appel à la vigilance de l'âme, cette notion si essentielle de la vigilance de l'âme, cette notion si essentielle de la vigilance de l'âme qui est inséparable de la garde des commandements et donc de la pratique des commandements. Vigilance de l'âme, l'expression nous est familière puisque elle revient à plusieurs reprises dans nos textes liturgiques. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce jour, et la prochaine fois, donc, en guise de récapitulation, nous verrons quels sont les thèmes essentiels, les fondements de la théologie johannique qui parcourt donc tout l'évangile, tout le témoignage du témoin oculaire, du disciple bien-aimé du Seigneur, à la fois dans l'évangile, dans les épîtres, mais également dans le texte de révélation qu'est l'Apocalypse.